On va passer à la parole, vraiment le plus important. D'accord ? J'ai l'habitude, de quand j'ai l'occasion d'apporter la parole, d'utiliser beaucoup de supports, de la vidéo. Donc là, je savais pas ce... Donc j'ai pas fait. ça va peut-être un peu me perturber. Je vais lire peut-être un peu plus mes notes qu'habituellement, parce que j'ai pas mes supports là. Mais voilà, je pense que quand il y a un mois, Frédéric, notre pasteur à Albi, m'a demandé de venir à... Si je voulais bien venir à Groyer, j'ai dit oui de suite. Mais quand on doit porter la parole, je peux vous assurer qu'on est dans nos petits souliers et qu'on a envie vraiment de parler de la part du Seigneur. Et de ne pas parler pour parler. Et rapidement, l'histoire de Daniel qui m'est venue. Voilà, je pense que le Seigneur a des choses à nous dire hein, ce matin. Il m'a parlé, moi, au travers de ce que j'ai pu préparer. J'ai donné un titre... au partage de ce matin, un défi pour ma génération. Alors un défi pour ma génération, ça va bien pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes qui sont là et pour nos plus sages, nos cheveux blancs. Donc toute génération, on a tous un défi à relever, je pense. Donc on va lire pour commencer, s'il vous plaît, dans Daniel. Daniel, au chapitre 1er, et au verset 8. Je vous laisse trouver. On va faire plusieurs lectures au long de... Je serai assez court, hein, j'ai pas l'habitude d'être très long. Alors, Daniel, au chapitre 1er, au verset 8. J'entends encore les pages se tourner. Il nous est dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est ce verset-là qui va nous servir de support ce matin. Alors je voudrais juste redonner un peu le contexte. Daniel avait été déporté, il n'était pas le seul, il y avait un nombre important qui avait été déporté à l'époque à Babylone. C'était un pays étranger. Babylone se situe à peu près à 1000 km hein, en ligne droite. Et si on prend une ligne droite, 1000 km d'Israël, et donc une culture étrangère. C'est juste pour vous situer dans quel contexte Daniel se trouvait. Hein. Culture étrangère, une langue étrangère. En arrivant, il était de coutume de changer le nom des déportés. C'est pour ça que le nom de Daniel a été changé. Et le but était explicitement de changer la destinée de ces hommes-là. Donc dans ce contexte, alors ils avaient été choisis, les hommes qui avaient été choisis, c'est des hommes de sang royal, des familles de dignitaires. En l'occurrence, Daniel et ses compagnons, parce qu'ils avaient, et c'était une demande du roi Nebuchadnezzar de l'époque, ils voulaient des jeunes gens pour servir au palais, qui avaient une belle apparence, qui étaient sans défaut. Donc Daniel avait été choisi pour cela. Et le roi avait demandé qu'il soit nourri avec les mets qui étaient servis à la table du roi. Le problème, c'est que ces mets-là, c'était des mets qui étaient considérés impurs par le peuple juif et qui ne pouvaient pas manger parce que c'était des mets impurs. Et Daniel aurait pu plier à la demande du roi en trouvant plein de prétextes valables a priori et en disant ben, il faut que je prenne des forces, ça aurait pu être un des prétextes en tout cas, il faut bien que je mange, il faut bien que je boive si un jour je dois repartir au pays, avoir des forces pour repartir, parce que le trajet se faisait pas en TGV. C'était le trajet, la distance à parcourir, il leur fallait un peu moins de 3 mois. C'était entre 2 et 3 mois pour parcourir la distance de la déportation. Donc s'il fallait qu'ils fassent le trajet en sens inverse, il aurait pu justifier le fait de se nourrir des mets du roi avec le fait de pouvoir avoir des forces pour entrer au pays. Première chose, il aurait pu aussi justifier le fait de se souiller, parce que c'était le cas, hein, pour eux, en disant bon ben il faut que je rende un bon témoignage, je vais pas heurter le roi et ceux qui sont à son service, donc je vais m'exercer à vivre au plus près de ce que Dieu me demande et me commande, mais bon je vais faire cette petite encartade et je vais au moins pour pas heurter, pour rendre un bon témoignage. Daniel aurait pu, mais Daniel n'a pas fait. Il nous est dit, Daniel a choisi de ne pas se souiller. Daniel résolu, selon les versions, hein, Daniel résolu de ne pas se souiller. Et littéralement, ça veut dire, Daniel prit à cœur de ne pas se souiller. Alors, un défi pour ma génération, j'ai relevé, il y en a peut-être d'autres, certainement d'autres, j'ai relevé 3 conditions qui sont, à mon sens, indispensables pour relever ce défi. Et le défi qui se présente à nous pour notre génération, j'ai relevé 3 conditions. Est-ce que la ville de Groyer, il y a des villes qui sont réputées pour être difficiles et fermées à la foi. Est-ce que la ville de Groyer est une ville difficile ou fermée à la foi? Je connais pas bien Groyer. Je suis un Tarné, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on entend communément ou question que je pose? Oui. Ça arrive à certaines villes qui peuvent être fermées à la foi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui soient épargnées, malheureusement, à la fermeture à la foi, mais notre Dieu est un grand Dieu. Alors j'ai envie de vous dire, si Groyer est fermé à la foi, réjouissez-vous. Parce que ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Dans la mesure où il y a des disciples de Dieu, de Jésus, dans cette ville, ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Et que vous êtes là où il faut servir. Daniel n'était pas dans un endroit favorable à la foi. Déporté dans une ville étrangère, ils adoraient des dieux étrangers. C'était et on connaît l'histoire après de Daniel, dans la fosse aux lions. Enfin bref, tout ce par quoi il est passé. Alors si Groyer est une ville difficile, frères et sœurs, réjouissez-vous, parce que dans la Bible, il nous est démontré à maintes fois que dans les lieux difficiles, et Daniel l'a vécu, Dieu veut se manifester. Et dans la mesure où nous, quand je dis nous, parce que je suis à Groyer aujourd'hui, placé à Groyer, nous sommes au bon endroit. Et là où Dieu nous veut. Alors, première condition. La sanctification permanente. J'ai pas simplement marqué sanctification, j'ai noté la sanctification permanente. Il faut que l'on sache. Alors, je vais souvent me parler aussi, soyez pas surpris. Quand je vous parle, je me parle, forcément. Je ne pourrai pas être utilisé par Dieu comme il le souhaite et rempli de son esprit comme lui le veut si je me laisse souiller et imprégner des choses du monde. Quand on parle des choses du monde, c'est de la pensée du monde. C'est-à-dire ce qui est contraire à ce que Dieu veut pour nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je pense que Daniel est un exemple parfait de ce que Dieu peut faire avec nous si nous acceptons de ne pas nous laisser souiller. Le diable, l'ennemi de notre âme, essaiera toujours et par tous les moyens de nous éloigner de la sanctification. Il est rusé, la Bible nous le dit, bien affûté pour trouver la faille On a chacun des failles différentes, le diable les connaît, et ces ruses ne manqueront pas de venir pointer là où la faille peut poindre, avec des mensonges tels que ce n'est pas si grave, comme à Daniel à l'époque, allez, il faut bien que tu manges, il faut bien que tu boives. Ben, c'est pas un vrai mensonge que tu fais là. On a tous cette petite voix de temps en temps qui nous fait « Mais oui, tu peux regarder jusqu'au bout, pas de souci, les jeunes là qui ont les portables, ou les ordinateurs, ou les moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, des images qui peuvent arriver sur l'ordi ou sur le téléphone, on peut être tenté de laisser, on dit « Bon, ben c'est voilà. » Mais ne pas se laisser souiller, c'est aussi couper au moment. Et ne pas se laisser s'imprégner, et des sollicitations ne manquent pas aujourd'hui. Ce que je vais vous conter une histoire qui est un peu simpliste, mais moi qui m'a beaucoup parlé, par rapport au le fait de se laisser imprégner des choses du monde, et c'est vraiment fin, souvent c'est pas de manière très grossière, on le voit pas arriver. Donc à nous d'être vraiment très vigilants, d'avoir notre main toujours dans la main de Dieu, parce que tout seul, d'abord, on aura du mal à discerner le bien, le mal. Mais vraiment, si on veut se laisser remplir du Saint-Esprit et être tellement proche du cœur de Dieu qu'on aura l'œil affûté et le regard juste pour savoir, comprendre, et bien se connaître pour connaître ses failles et là où le diable peut nous atteindre et se tenir éloigné de ce qui peut nous faire chuter. C'est une histoire de grenouille. Alors, notre grenouille, elle est invitée à passer une après-midi dans un endroit, elle habite d'habitude d'une mare un peu vaseuse, avec une eau pas très claire, hein. Et là elle est invitée à passer une après-midi dans une eau limpide, un lagon, donc avec tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut à disposition, on y amène des insectes pour manger, enfin tout a l'air de bien se passer. Et l'eau est assez bonne d'ailleurs, et la température de l'eau, tout doucement, elle augmente. Donc elle se trouve un petit 23 degrés, un petit 28 degrés, et puis l'eau augmente. Et elle commence à se sentir vraiment très très bien. Donc elle se dit, j'ai quand même fait le bon choix, là, c'est quand même pas trop mal. Je suis sorti d'une mare qui était pas, bon, qui était bien, mais qui était pas, il y avait pas tout à disposition. Il fallait un peu chercher, il fallait un peu se creuser la tête pour trouver les insectes, se mettre un peu au boulot. Et là, j'ai pas grand chose à faire, tout arrive. Et notre petite grenouille, elle commence à s'engourdir un peu. Parce que l'eau devient de plus en plus chaude, hein. Et l'eau chaude fait que ses muscles un peu se s'engourdissent et elle perd un peu de force, elle s'assoupit un peu, elle s'endort, et jusqu'au moment où elle se rend compte en fait qu'elle se trouve pas dans un lagon, elle se trouve dans une casserole, elle est en train de se faire cuire par un mangeur de cuisses de grenouille. Le problème de notre petite grenouille, c'est que le moment où elle s'en rend compte, elle n'a plus assez de force pour donner, vous savez, le petit coup de patte nécessaire qui va la faire bondir hors de la casserole. Et elle finit par être mangée par le mangeur de grenouilles. Alors c'est un peu simpliste, mais si nous, qui voulons suivre Jésus, on va le voir après, marcher dans les pas de Jésus. Si on accepte dans nos vies de nous laisser imprégner et de laisser cette petite voix du diable qui va essayer de nous faire tomber, dire mais c'est pas si grave. Donc vous sentez bien l'eau chaude qui commence à monter là. Mais t'es pas si mal ici, écoute, t'es pas très grave, c'est pas, voilà. Puis, tout le monde le fait, et puis, bref, vous voyez ce que je veux dire, de se laisser imprégner des choses du monde. Il va arriver un moment où on va manquer de force, ce petit coup de patte de la grenouille qui va lui permettre de sortir de la casserole pour sortir des griffes du diable. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et quand on parle de sanctification permanente, c'est indispensable si je veux relever le défi pour ma génération. C'est pas vieux, cette semaine, il y a, par rapport aux 500 ans de la réforme protestante, il y a eu un reportage, j'ai vu 2-3 reportages à la télé sur des chaînes de premier plan, on va dire. Là, c'était sur Canal+. Il y avait un reportage, enfin, c'était pas un reportage, c'est une émission de débat. Il y avait un pasteur qui était là, protestant, et puis il y avait des intellectuels. Et j'ai été un peu bouleversé par ce que j'ai entendu de la part notamment du pasteur qui était là. Enfin, c'est pas le pasteur qui était sur le plateau. Ils ont passé un reportage pour illustrer un peu ce qui était dit sur le plateau. Et dans le reportage qui a été diffusé, c'est pas un jugement que je vais porter du tout, hein, mais c'est pour illustrer les propos que je voudrais partager avec vous par rapport au fait de se laisser imprégner par les choses du monde, les pensées du monde. Dans le reportage, à un moment donné, il y a une dame qui a parlé au journaliste et qui était là et qui lui a dit, mais voyez-vous, il lui demandait la différence qui était avec les catholiques et les protestants, enfin les différentes, et ce qui les faisait ressortir à eux ou pas. Et à un moment donné, la dame a dit, mais voyez-vous, chez nous, les pasteurs aussi divorcent. On fait aussi des mariages de couples de même sexe. Et la personne en disant ça, c'était comme pour dire, on n'est pas si mal que ça. Et que Dieu nous garde. Vraiment. Je porte pas de jugement sur cette dame, que Dieu m'en garde, vraiment. Mais que Dieu nous garde de nous imprégner de la pensée du monde. La sanctification permanente. Si je vais dans mon jardin, j'ai une allée en gravier à la maison, et je j'aime pas voir les herbes pousser. Donc régulièrement, je prends 5 minutes, je vais arracher les herbes. Mais je sais très bien que l'herbe, si je fais que la couper, si j'enlève pas la racine, 8 jours après, je suis obligé d'y revenir. Or, des fois, j'arrive pas à enlever la racine parce que c'est un peu costaud. Mais je sais que je vais y revenir. Parce que je vais m'acharner vraiment, hein, je suis un petit cousse, mais à enlever cette mauvaise herbe. Mais dans nos vies, c'est exactement la même chose. Si j'accepte un peu de mauvaise herbe, ben cette herbe-là, c'est vraiment très costaud. Ça arrive à couper, à passer à travers la roche, à travers une brique, donc à travers une terrasse. Si vous avez une terrasse en béton, bon, l'herbe remonte. Mais si j'accepte dans ma vie, il n'y a pas de petites choses, hein, vous comprenez ce que je veux dire, mais ce qu'on pourrait appeler des petits compromis, faut que j'accepte aussi les conséquences et que la muraille va pouvoir s'ouvrir et que le diable va faire son œuvre. Donc mes frères et sœurs, Benoît, soyons des Daniel. Soyons des Daniel, point de vue de la sanctification dans nos vies, sanctification permanente. Deuxième condition, j'avance. La reconnaissance. Être reconnaissant. On va lire dans Actes, si vous voulez bien. On va prendre 2 exemples. Au chapitre 7. Actes au chapitre 7 et au verset 59. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. Quel exemple, on va en parler. On va lire dans Actes, on va rester dans le même, au chapitre 16, et au verset 25. Donc là, il s'agit de Paul et Silas qui sont en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Donc la reconnaissance, quelles que soient les circonstances, être reconnaissant envers Dieu. Étienne, qui a été capturé et qui trouve la mort de manière terrifiante. Enfin, il y a de nos frères et sœurs qui vivent ce genre de choses aujourd'hui, en 2017, et qui vivent ce type de persécution-là, notamment la lapidation, et qui arrivent à mourir par lapidation. Et dans ce moment-là, Étienne arrive à être reconnaissant et à demander le pardon à Dieu pour les gens qui sont en train de le tuer, de le mettre à mort. Quel exemple de reconnaissance envers Dieu et de il capitule devant Dieu, quoi, et devant les desseins de Dieu qui sont de toute façon parfaits. Pour les Silas, alors on a tendance à retenir qu'ils sont en prison, enchaînés, et qu'ils chantent, on se dit, moi longtemps j'ai idéalisé un peu on se fait une image du lieu, enfin prison, ça devait pas être très glorieux la prison là, mais on les imagine peut-être presque avec la guitare en train de chanter « Louer Dieu », savoir qu'avant d'être mis en prison, ils ont été roués de coups. Ils ont été martyrisés, vraiment. Donc ils sont arrivés en prison, ils étaient certainement pas dans un bel état. Ils étaient enchaînés, et dans ce contexte-là, il nous est dit qu'ils chantaient et louaient Dieu. Parfois, je parle pour moi, souvent ou parfois en tout cas, je peux manquer de reconnaissance envers Dieu. Au milieu de la tempête, alors certains d'entre nous vivent certainement des tempêtes difficiles, incroyables, ou qui paraissent insurmontables en tout cas. Ça peut être le deuil, ça peut être le manque de reconnaissance ou bref des choses difficiles, la maladie, et on se dit face à cette tempête là mais à quoi bon, ou je vais pas y arriver, ou ça va être trop dur. On parlait de la ville de Grouillet, la ville est trop dure, la ville est trop fermée à la fois, il y a trop d'opposition. Quel que soit le contexte, et la Bible nous le montre bien, jusqu'à l'exemple parfait, Jésus sur la croix, quand Jésus, avant de donner son dernier soupir, dira « Père, pardonne-leur », mais quelle reconnaissance et quel exemple nous avons dans la Bible de ces hommes et de ces femmes, pour certaines, qui jusqu'au bout ont été reconnaissants, et comment Dieu a honoré ces hommes-là. Même si je dois être raillé par ma famille, par mes voisins, par mes collègues, par mon patron, bref, que sais-je. Mais soyons toujours reconnaissant. Être reconnaissant, c'est aussi refuser les paroles de défaite. Alors, c'est pas de la pensée positive en disant quand je suis dans une tempête, quand je traverse le deuil ou la maladie, c'est pas en disant je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien que ça va aller mieux. C'est pas ça, c'est pas du tout. Mais refuser Les paroles négatives, c'est refuser les paroles qui vont dire aussi, peut-être cette ville est trop dure, cette ville est trop fermée. Tout ça, toutes ces paroles-là négatives, c'est un mensonge du diable. Notre Dieu est un grand Dieu. Les chaînes de Paul et Silas ont été rompues. La terre a tremblé de façon à ce que les portes de la prison s'ouvrent. Donc même au milieu de la tempête, au milieu d'une montagne, ou devant une montagne, ou devant un mur qui vous paraît impossible à franchir, notre Dieu est celui, est le Dieu qui peut nous faire franchir le mur qui paraît infranchissable. La montagne à gravir, qu'on ne peut gravir seul, Dieu peut nous la faire gravir. Être reconnaissant, c'est, et on va le voir juste après, sur la troisième condition, c'est aussi voir les choses qui nous paraissent impossibles et croire que notre Dieu peut tout. Oui. Je regarde juste mes notes. Ouais, j'ai marqué, je l'ai souligné. Dieu ne manquera pas d'honorer ta fidélité et de renouveler ses promesses. Soyons des témoins vivants de l'amour de Dieu pour notre famille, notre pays, notre ville, nos voisins. Et Dieu ne manquera pas de se manifester. Troisième condition. Alors, j'ai pas de montre, il y a une pendule là, ouais. Troisième condition, c'est la dernière condition, et après, je conclurai. Troisième condition, pour relever le défi pour ma génération, vous retenez, hein. Se mettre en action et mettre en action sa foi. Donc là, je voudrais qu'on lise dans Exode. Exode, au chapitre 17 et au verset 8. Exode, chapitre 17, verset 8, et on va lire jusqu'au verset 15. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard. Se mettre en action et mettre en action sa foi. Alors au travers de ce récit que nous venons de lire, on pourrait relever beaucoup de réflexions. Nous connaissons les tribulations et ce par quoi le peuple d'Israël est passé, esclave en Égypte, durant des 400 ans, hein, des générations. Comment le peuple a été délivré de l'esclavage, les plaies, de manière miraculeuse, hein, c'est extraordinaire, les plaies, la mer qui s'ouvre. Ils ont traversé la mer à pied sec, c'est-à-dire que non seulement la mer s'est retirée, mais c'était sec, c'est-à-dire qu'ils sont passés à pied sec. C'est un détail, mais voilà quoi. Quand la marée recule, quand vous allez à l'océan et la marée recule, vous marchez sur le sable, il est mouillé le sable. et on s'enfonce, et selon la composition du sable, ça peut être plus ou moins mouvant et pas facile d'y marcher. Il nous est dit qu'ils ont traversé à pied sec. Quand Dieu fait un miracle, il ne le fait pas à moitié. Ils ont été conduits dans le désert par la nuée et la colonne de feu. Il nous est dit dans la Bible, c'est au verset 21 du chapitre 13 dans Exode, hein, que les miracles qu'ils ont vécus à ce moment-là étaient aux vues de tous, de tout le peuple. Ils ont été nourris dans le désert de manière miraculeuse, des cailles, de la manne. Et pourtant, quel manque de reconnaissance envers Dieu du peuple, de la part du peuple. Peuple qui regimbait, on le sait, hein, une des raisons pour laquelle ils ont passé autant d'années dans le désert. Hein. Mais ce qui nous intéresse pour cette troisième condition, c'est la foi dont a fait preuve Josué, Aaron et Hur. On relève souvent l'action de Moïse, à juste titre, hein, ça a été un homme utilisé par Dieu de manière extraordinaire. Mais je voudrais relever là particulièrement l'obéissance de Josué. Quand Moïse lui dit « Va et choisis des hommes ». Et va combattre. Il nous est dit, il est écrit que Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Donc il a mis sa foi en action. Josué, il aurait pu discuter l'ordre, je mets des guillemets, de Moïse. Il aurait pu dire, mais crois-tu que c'est bon d'aller les combattre? Est-ce que c'est à moi de choisir les hommes? Mais pourquoi tu vas sur la montagne, toi? Nous, on va combattre, tu m'envoies au combat et toi, tu vas sur la montagne. Il aurait pu essayer de discuter, Josué, et de, je sais pas, d'argumenter, de trouver un autre plan d'attaque, de discuter, en tout cas, les ordres qui lui étaient donnés. Mais Josué a mis sa foi en action. Aaron et Hur, ils ont mis aussi leur foi en action. Ils auraient pu discuter le fait d'aller sur la montagne avec Moïse. Puis dire, ben nous, on veut aller combattre Moïse. Ok, tu vas sur la montagne, tu vas prier, tu vas intercéder, mais nous, on veut aller au combat. Mais leur place, à ce moment-là, Dieu la voulait à côté de Moïse. Et ils n'ont pas discuté la place que Dieu voulait pour eux. Ils ont mis leur foi en action. Et grand bien leur a fait à eux et au peuple. On peut mettre ce rapport-là aussi, le travail d'Aaron, de Hur et de Moïse, avec le travail qui peut se faire souvent dans l'ombre, travail de prière et d'intercession. On parle souvent de nos aînés dans l'Église qui ont peut-être moins de force pour aller dans la rue, évangéliser, ou qui manquent de force, mais On a un papy, nous, à l'église. C'est le papy de tous. Mais c'est le papy des papys aussi. C'est le papy des enfants. Et ce papy-là, Albi, se lève tous les matins, à 4h30, 5h, pour prier. Pour les familles de l'église. Il a un cœur particulier pour les jeunes, vraiment. Il a la force encore d'aller évangéliser, il va distribuer des évangiles devant la fac, devant les lycées. Et tous les matins, il se lève très tôt pour intercéder, pour prier. Pour moi, c'est un Aaron, c'est un mur, qui est là pour tenir le bras de celui qui est envoyé par Dieu. Daniel a fait preuve de foi quand au verset 12, il dit à un des chefs là qui était là pour lui dire, ben voilà, il va falloir que tu manges, et qui devait, je sais pas comment, j'ai pas fait attention comment il a été appelé, mais c'est le roi qui l'envoie, il lui dit, c'est toi qui est responsable de la bonne santé de nos déportés qui vont devoir servir à ma table après. Donc tu dois bien les nourrir, tu dois les faire boire, et c'est toi qui es responsable. Et Daniel a fait preuve de foi, quand au verset 12 notamment, il lui dit « Éprouve-nous pendant 10 jours avec seulement des légumes et de l'eau, et ensuite tu agiras en fonction de ce que tu verras et du résultat. » Il prenait un grand risque, Daniel, à ce moment-là, en disant, bon ben voilà, on m'a mangé des carottes, enfin je résume un peu, mais c'est voilà, on m'a mangé des carottes et des légumes, juste de l'eau, et au bout de 10 jours, tu verras si on est en bonne santé. Et en revanche, le sort qui leur était réservé, si toutefois ils n'étaient pas en bonne santé, il n'était pas jojo. Enfin, on connaît l'histoire de Daniel, hein, c'est de la fournaise, la fosse au lion, enfin ça rigolait pas. Daniel, à ce moment-là, a fait preuve de foi. Et Dieu attend de nous aussi que nous puissions vraiment lâcher prise et lui faire confiance en totalité. Dieu ne manquera pas de bénir et de manifester sa grandeur, sa puissance de manière miraculeuse si notre foi elle est placée en lui, clairement. Nous savons que tout choix implique un renoncement. Quand je choisis une chose, ça veut dire que je renonce à une autre. Quand Daniel résolu et prend à cœur de ne pas se souiller, il a choisi aussi de renoncer à lui-même. A priori. Mais humainement, ce qui lui était présenté, c'était pour nous Français, qui aimons la bonne chère et la table, ne pensez pas ce que vous allez manger à midi. Là, je vous amène sur un terrain qui est pas bon. Revenez à ce qui est dit. Il a renoncé. A priori, enfin c'est pas a priori, il renonçait à lui-même. En faisant le choix de ne pas se souiller, il a renoncé à peut-être vivre. Parce que le sort qui lui était réservé, s'il ne se présentait pas devant le roi en bonne santé et en état, il était mis à mort. Donc quand on fait un choix, et quand on fait le choix de ne pas se souiller, oui, on accepte de renoncer à nous-mêmes. On accepte de renoncer à son confort en tant que simple homme. On est appelé, frères et sœurs, tous, à vivre et à être des disciples de Christ et à marcher dans ses pas. Si je choisis, de suivre Jésus, cela veut dire que je suis en mouvement. Si je décide de suivre, c'est pas en restant posé et planté là où je suis planté que je vais suivre. On est d'accord ? Parce qu'à un moment donné, si vous êtes en randonnée avec un guide, vous partez en haute montagne, le guide, lui, va marcher, mais si vous acceptez pas de mettre un pied devant l'autre et un pas devant l'autre pour le suivre, à un moment donné, le guide, vous n'allez plus le voir. Si j'accepte de suivre Jésus, cela veut dire que je suis en mouvement. Il ne suffit pas que de repentance, même si la repentance elle est indispensable, d'accord ? Et c'est le premier pas de la repentance. Suivre Jésus, cela veut dire passer là où Jésus passe. C'est poser mes pas dans les pas de Jésus. Et cela veut dire renoncer parfois à un autre chemin. On a tous des envies, des désirs, des souhaits pour notre vie. Notamment les jeunes, quand on pour une profession, pour trouver une épouse pour les gars ou une époux pour les filles. C'est des choses normales et on fait des plans, on y réfléchit quoi. Ou pour notre vie professionnelle, pour comment on peut servir aussi le Seigneur après, ou quand on est plus âgé dans l'Église, ou bref, on se fait des plans. Et on se fixe des routes, on se dit, ben, je passerai par là. Ça doit être certainement la bonne route. Ou pas. Accepter de suivre Jésus et de poser mes pas dans les pas de Jésus, c'est accepter de renoncer aussi peut-être à un chemin que je m'étais imaginé, que j'avais tracé. Et renoncer à ce chemin-là, qui peut-être paraît meilleur. Parce que des fois, le Seigneur nous amène dans des déserts. Parce qu'on a besoin de traverser un désert. On a des saisons dans notre vie, comme des saisons dans la nature. Il y a l'hiver, il y a l'été. Alors certains préfèrent l'hiver, d'autres préfèrent l'été. Moi, j'aime bien la chaleur. J'ai entendu ce matin louer il y a des Antilles, l'océan Indien, il doit y avoir. Mais moi, ça me remplit de soleil, tout ça. Donc j'avoue qu'il y a des saisons que j'aime moins. Mais le Seigneur va nous faire passer par des saisons qu'on n'aura pas choisies. Et parfois le désert. Et le chemin qui se présente à nous, le désert que le Seigneur va permettre qu'on traverse, hein, peut-être on aurait choisi un chemin a priori plus facile, plus lumineux, plus direct, en ligne droite. On se dit, ben, je dois aller à ce point-là. Ben forcément, la route, c'est celle-là. Quoi. Mais le Seigneur va permettre qu'on passe peut-être par ce qui nous semble, nous, des détours, mais qui sont essentiels à notre formation et à notre marche avec lui, et pour qu'on rentre vraiment dans les plans qu'il a pour nous. Si je veux, en tout cas, marquer ma génération. Daniel a choisi de ne pas changer la route que Dieu avait fixé pour lui. Et quelle destinée pour Daniel. Alors que l'ennemi avait même changé son nom. Même devant cette difficulté-là, Dieu avait un plan pour sa vie, destinée, et Dieu est plus grand que l'ennemi. Notre Dieu est plus grand. Et quand Dieu a décidé, si Dieu vous a fait une promesse, si Dieu vous a parlé, si Dieu vous donne une direction, peu importe les difficultés qui se présenteront devant vous, dans la mesure où vous restez dans les pas de Jésus, Dieu vous amènera au bout. Dieu ne fait pas de promesses qu'il ne tiendrait pas, qu'il ne peut pas tenir, dans la mesure où on accepte la route qu'il a pour nous. Il nous est dit que Daniel a trouvé grâce et faveur auprès de Dieu. Que ma vie, que nos vies trouvent grâce et faveur auprès de Dieu. Quand nous renonçons à nous-mêmes pour suivre la vie que Dieu veut pour nous comme véritables disciples, alors ce renoncement-là sera toujours meilleur. Même si ce n'est pas palpable, si ce n'est pas si évident, pas logique sur le moment, quelle récompense après de trouver grâce et faveur auprès de Dieu. Je voudrais qu'on lise pour terminer et pour finir d'illustrer les propos dans Matthieu. Alors Matthieu au chapitre 7. Et au verset 21. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle est fondée sur le roc. Amen. Mon frère, ma sœur, que nos vies, que ta vie soit fondée sur le roc. Et nos résolutions à chacun, comme Daniel, inébranlables. Et nos vies, alors, seront approuvées de Dieu. J'avais prévu une dernière lecture, pardon. Au chapitre 16 dans Matthieu, vous n'allez pas bien loin. Tournez quelques pages. Matthieu, chapitre 16. Versets 24 et 25. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Verset qui résume bien ce que nous avons partagé ce matin. Si je veux relever le défi pour ma génération, la sanctification permanente, la reconnaissance envers mon Dieu, quelles que soient les circonstances, la tempête peut être rude, que Dieu me permette d'être toujours reconnaissant. L'action et la foi en action. Que Dieu nous aide vraiment. Notre Dieu est un Dieu puissant. Donc pas de ville trop fermée et refuser ces paroles négatives parce qu'on laisse la place, c'est ce que le diable veut nous faire croire en fait, que notre famille, que nos parents sont trop durs, que nos enfants se convertiront jamais, que c'est pas possible. Je vous donne un dernier témoignage, j'avais pas prévu, mais pour quand j'étais dans cette période-là, à 10 ans là, de ma vie, de ma jeune vie, mon meilleur copain, on habitait en cité, on n'était pas dans un lieu un peu privilégié, on habitait en HLM avec mes parents, on était sur Montauban, et mon meilleur copain avec qui je faisais un peu les 400 coups, il n'avait pas de papa à la maison, il avait trois frères, et on était vraiment comme les deux doigts de la main, hein, voilà, tout ce qu'on pouvait faire comme bêtises, on les faisait ensemble. Mais en même temps, ça lui arrivait de venir dormir à la maison le samedi soir. Et quand il venait dormir à la maison le samedi soir, il venait au culte avec nous. Et donc il a connu une approche de l'évangile. On a déménagé en région toulousaine. J'avais 11 ans ou 12 ans quand on a déménagé en région toulousaine. Et j'ai gardé contact avec mon copain pendant un an, guère plus. Il est venu à un camp avec moi, un camp de jeunes, et une semaine où il était baigné vraiment dans l'évangile, et on s'est perdu de vue pendant quelques décennies. Et il y a 5 ans, j'ai eu à cœur vraiment de prier pour lui un été, mais vraiment un poids et on s'est pas vu depuis. Très longtemps. Je savais pas dans quelle ville il était, complètement perdu de vue. Et j'ai vraiment eu à cœur de prier pour lui et d'intercéder de manière particulière. Grâce aux réseaux sociaux, ça n'a pas que du mauvais, j'étais travaillé, je disais, mais pourquoi t'es amené à prier pour lui, Alex, il se prénomme, tu l'as pas vu depuis 30 ans, J'ai dit, bon Seigneur, tu sais, toi. Je... Et un ou deux mois après, j'ai recherché sur les réseaux sociaux, je l'ai retrouvé. J'ai dit, Alex, c'est bien toi, Alex de Montauban. Il me répond, oui, c'est bien toi, Benoît de Montauban. Oui. Et ce gars-là, aujourd'hui, écoutez bien ce que le Seigneur fait. Il vit en Tibes, sur la Côte d'Azur. Il habite dans une... Écoutez bien les détails de ce que le Seigneur fait dans une vie. Il habite dans une résidence. Sa fille, la meilleure copine de sa fille, est une fille de chrétien. Sa fille est invitée le samedi soir à dormir chez sa copine. Elle dit à son père, à Alex, « Papa, je vais dormir ce soir chez... Mais demain matin, ils vont à l'église, ils sont chrétiens et ils veulent que j'aille au culte. » Et son père, il lui dit, « Ben non. Il y a une seule condition, c'est que je vienne avec toi. » Ça faisait un mois qu'il était travaillé, et sur le marché, d'où l'importance de l'évangélisation, notamment sur les marchés, sur le marché d'Antibes, enfin, c'est une fête foraine, je crois, qu'à Antibes, l'église d'Antibes, la fête de la Bible, ils appellent ça, ils font un stand avec de la Bible, et ils distribuent des Bibles et des évangiles au milieu d'une fête foraine. Et il a été interpellé la semaine qui a précédé l'invitation de sa fille, il a été interpellé sur le stand, on lui a offert une Bible, et il s'est rappelé de la famille de Montauban qu'il avait marqué. Je vous dis ça avec un peu d'émotion. Et il était perdu à ce moment-là, et il s'est dit, il y a quelque chose. Là. Et ce gars-là s'est converti le jour où il a mis les pieds dans l'église d'Antibes, il y a 6 ans. Aujourd'hui, il marche avec le Seigneur, et voilà quoi. Donc, ce qu'on fait pour le Seigneur, en tant que parent, que jeune, et les plans du Seigneur sont forcément bons, merveilleux, et le miracle existe. C'est pas anodin, hein, ce qui s'est passé avec sa fille, la meilleure copine de sa fille. L'histoire était perpétuée, mais c'est un clin d'œil aussi du Seigneur, je pense, et ça l'a interpellé. Quand le Seigneur veut nous utiliser, il le fait parfaitement. Si je veux marquer ma génération, acceptons la sanctification permanente, la reconnaissance et l'action. Ne restons pas plantés, mais mettons nos pas dans les pas de Jésus et il nous amènera forcément sur un chemin merveilleux. Voilà. On va prier. Seigneur, vraiment, nous présentons devant toi avec crainte, oui, avec tremblement, avec reconnaissance, avec grand respect, parce que tu es Dieu. Ce que tu dis, Seigneur, ta main l'accomplit. Tu n'es pas homme pour mentir, mais tu es Dieu. Nous reconnaissons ce matin ta sainteté. Nous savons, Seigneur, le bien que tu veux pour nous. Tu nous l'as démontré au grandement par Jésus sur la croix en donnant notre Dieu, ton Fils unique. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin, tout à nouveau. Fais de nous des disciples. Permets que jour après jour, nous entrions toujours plus dans la sanctification. Nous voulons être reconnaissants chaque jour de qui tu es, de ton œuvre, de ce que tu as fait dans nos familles, de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu as fait pour la ville dans laquelle tu nous as placés. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Nous voulons refuser aussi les paroles de défaite. Nous voulons que tu sois glorifié, Seigneur, pour ton œuvre, pour le miracle permanent que tu fais dans nos vies. Et nous voulons nous mettre en action, Seigneur. Fais grandir en nous la foi. Nous voulons marquer notre génération, Seigneur, comme toi tu l'entends. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux, ce que tu désires. Nous voulons entrer dans tes plans. Nous voulons prendre le chemin que tu as tracé pour nous. Pour que toi, tu sois glorifié. Pour que ton royaume avance. Pour que ton peuple grandisse. Pour que des âmes soient sauvées. Pour que nos familles soient sauvées. Pour que nos voisins soient sauvés. Pour que notre ville soit sauvée. Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Par nos vies, brille, Seigneur. vraiment. Et nous honorons vraiment, Seigneur, ton nom. Tu es un Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu du miracle. Et nous voulons le proclamer. Merci, Seigneur.